figures, figures, ombre capot.
Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait de taille à lutter.
Un peu de zat. De grève. Du gaz de schiste.
De gisement, de gaz de schiste.
Du logement. Toi, du féminisme. Bon, bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Avec les membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer un beau sport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Bonsoir. Aujourd'hui, dans le Canu Info, nous allons partir directement sur le nucléaire, puisque ça tremble pour les moteurs diesel des centrales nucléaires.
Ensuite, au niveau local, une personne viendra nous présenter une mutuelle.
Ensuite, il y aura une tribune pour un féminisme inclusif.
Et ensuite, on partira à Paris et dans la France entière, voire même surtout en Guadeloupe, puisqu'on parlera du mouvement contre la réforme des retraites. On verra comment les écoles sont fermées en Guadeloupe.
Et on parlera également des crèches autogérées pendant le mouvement des retraites.
Ensuite, on aura une musique lecture, ça donne envie.
Ensuite, on changera complètement de sujet parce que ça donne un peu moins envie, c'est les prisonniers du CRA de Oisel.
On verra comment la couverture santé des demandeurs et demandeuses d'asile est remise en cause.
Et on parlera du fichage des mineurs.
Et comme d'hab, on finit par un petit agenda. Là, c'est un petit, mais c'est pas vraiment un petit, ça sera un grand. Et bien sûr, il y aura un ACAB. Si vous avez un ACAB à proposer, vous pouvez envoyer un SMS au 13 12 13 12 ou sinon, appelez Radio Canu au 04 78 39 18 15. Je répète, 04 78 39 18 15.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Brique nucléaire en tout début de Canu Info. Alors ça me fait un peu bizarre, mais bon, je vais essayer de me contenir. Donc voilà, et je vais vous parler, des moteurs diesel de ces fameuses centrales nucléaires, puisque si vous ne le saviez pas, une centrale nucléaire a besoin de moteurs diesel. Et donc, c'est un petit retour sur, vous verrez que c'est pas juste un petit retour sur une affaire qui a débuté en novembre 2019. Donc pour ceux qui sont très assidus au Canu Info, entre autres, du vendredi, je vous en avais parlé. Je vous avais parlé d'une anomalie générique sur ces fameux moteurs diesel. Alors à l'époque, c'était par un communiqué de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, donc daté du 26 novembre 2019, que le public est informé que ces fameux moteurs diesel qu'on appelle diesel d'ultime secours ne sont pas aux normes et n'auraient jamais pu fonctionner en cas de séisme. Donc à l'époque, ce sont 7 réacteurs qui sont impactés, dont le réacteur de Cruas, donc en Ardèche, qui, je vous le rappelle, était dans la tourmente du séisme du 11 novembre. Et donc on était Très content d'apprendre le 26 que en fait il était équipé de diesel d'ultime secours qui n'aurait jamais pu fonctionner s'il y avait eu un problème un peu plus conséquent sur le séisme du 11 novembre. Donc oui, parce que ces moteurs d'ultime secours sont censés garantir en toutes circonstances que jamais, au grand jamais, les réacteurs ne soient privés d'électricité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que si ils ne sont pas alimentés en électricité, il y a tout un tas de mécanismes de sûreté qui ne fonctionnent pas et c'est la catastrophe. Donc à l'époque, on parlait d'anomalie générique pour 7 réacteurs. Et on avait soulevé la question que ben, peut-être ça impactait plus de réacteurs que ça, mais on savait pas trop. Et ben là, vlan et paf, EDF vient d'en annoncer 16 de plus. Et donc, faut savoir qu'au total, ce sont 15 sites nucléaires sur les 19 qui sont donc concernés par cette anomalie. Donc c'est plutôt pas mal. On est plus que... Ouais, enfin voilà. Raccord, donc... Raccord de tuyauterie mal monté, rouille à différents endroits, mauvaise connexion électrique. Donc c'est toutes ces choses qui font que ces moteurs diesel ne sont pas fonctionnels. Et alors les sites, je vais vous les citer. Donc c'est ben ça concerne par exemple alors il y a eu deux classements l'ASN classe les incidents nucléaires par niveau et donc il y a eu des réacteurs qui ont été classés niveau 2 et d'autres qui ont été classés niveau 1. Ceux qui ont été classés niveau 2, ce sont les réacteurs de Flamanville, Paluel, Belleville, Nogent, Penly. Et niveau 1, c'est Cattenom, Chouze, Civaux, Saint-Alban, Blayais, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines, Saint-Laurent. Puis ça, il faut prendre sa respiration. Et donc voilà, alors je vous passe les détails sur les subtilités du classement de l'échelle de l'INES, donc la différence entre le niveau 2 et le niveau 1. Il faut savoir que ça ne mesure pas du tout la gravité du dysfonctionnement. Ça mesure uniquement les conséquences. Mais on y reviendra une autre fois dans un autre Canu Info. Donc voilà. Alors comment des équipements aussi importants ont pu se retrouver dans un tel état, délabré au point de ne plus pouvoir fonctionner. Alors ce sont la qualité des interventions de maintenance, contrôle de ces opérations et surveillance des installations qui sont sérieusement remises en cause par toutes ces déclarations d'anomalies génériques qui touchent quasiment tous les sites d'EDF. L'exploitant se targue d'avoir déjà procédé aux réparations nécessaires, donc on est évidemment très rassuré, et l'autorité de sûreté nucléaire d'avoir imposé les contrôles permettant ces découvertes par une décision prise en février 2019. Donc ouf, on est rassuré, tout est rentré dans l'ordre. Mais du coup, c'est sans mentionner que ladite autorité a aussi accepté par cette même décision plusieurs années de retard pour la mise en service de ces fameux moteurs diesel d'ultime secours qui auraient dû être en fonctionnement au plus tard fin 2018. Donc effectivement, c'est un très très gros retard. EDF, parce qu'il a rencontré des difficultés industrielles, n'a pas été capable de respecter les délais, et ça qui ont été imposés suite à l'accident de Fukushima. Et donc ça, EDF ne le mentionne pas dans son communiqué. Et d'ailleurs, je vous dis le titre qu'a mis EDF pour ce communiqué, c'est... alors vous verrez qu'on se doute absolument pas de tout ce qui vient d'être cité ici, mais cet incident-là, ils le nomment comme ça. Détection d'écart aux exigences de tenue au séisme de certains matériels auxiliaires équipant des sources électriques des réacteurs. Donc... Évidemment, quand on parle de sources auxiliaires, on se doute absolument pas que c'est les diesels d'ultime secours. Donc ça fait déjà... c'est pas le même effet quand on en parle comme ça. Donc voilà. Mais en tout cas, les faits sont là. Erreur, manque d'entretien, de surveillance, de contrôle, au point que les équipements ne peuvent plus fonctionner en cas de besoin. Donc voilà. Donc là, on en est à 15 sites sur 19. Donc peut-être que dans un mois ou deux, ça sera 19 sur 19. Et voilà, ça sera le grand chelem. Donc voilà, affaire à suivre.
reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rouennais de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Petit reportage sur la grève qu'on a dit à les interjoints pendant la maison.
Ah, j'avais oublié d'allumer les micros, voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Cagnes Info du vendredi veut dire invité choisi. Ça rime, c'est bien joué. Qu'est-ce qui se passe ce soir? On invite une personne qui fait partie de la mute et qui vient parce qu'il y aurait une soirée publique ce soir. Et avant tout, avant de parler de cette magnifique soirée, est-ce qu'on pourrait pas savoir ce que c'est que la mute finalement?
Bonsoir. Oui, la Mutuelle, c'est un collectif d'une grosse vingtaine de personnes qui existe depuis 2011, qui a évolué depuis 2011 et qui consiste surtout à partager de l'argent. Pas parce qu'on aime bien l'argent, mais plutôt parce que on l'aime pas, souvent on n'en a pas et des fois quand on en a, c'est chiant aussi. Du coup, c'est parti de ce constat-là, la Mutuelle, que dans nos groupes de potes, dans nos groupes militants, dans nos groupes anticapitalistes, féministes, dans nos groupes dans lesquels on s'organise, il y a des personnes qui ont de l'argent, des personnes qui en ont beaucoup moins, des personnes qui en ont pas du tout, et que ça fait des rapports qui sont difficiles, parce que toujours, quand on n'a pas de thunes, c'est chiant, il faut en emprunter à du monde, ou alors il faut demander à ce qu'on nous en donne, et de la même manière, quand on a de l'argent, bah, en fait, même si on veut le partager, en fait, c'est pas non plus super aisé que de le proposer, ou que de le faire simplement. Et l'idée qui nous est venue en 2011 à ce moment-là et qui a fait son chemin depuis, c'est que plutôt que ça repose sur des relations interpersonnelles, ces relations de dons, de prêts, ça repose plutôt sur un truc collectif de comment on se débrouille pour penser ensemble le rapport à l'argent, pour penser ensemble aussi le partage et la redistribution au sein de nos groupes, et de mettre en pratique ces grands mots qui sont l'anticapitalisme, qui sont... aussi la lutte des classes et tout ça, et comment on se débrouille en fait dans nos groupes pour mettre en pratique du partage. Alors en fait concrètement ça fonctionne que on est une grande vingtaine, une grosse vingtaine, et chaque mois on prélève 10% de nos revenus, de l'ensemble de nos revenus, c'est-à-dire même l'argent qu'on gagne en travaillant avec un salaire, ou l'argent que l'État nous donne avec des RSA ou des APL, ou de l'argent qu'on va prendre de manière légale ou illégale dans les poches du patronat, et ben cet argent-là, on va tous mettre 10% de côté, et ces 10%-là, on va se les partager entre nous, avec un système qui fait que les plus pauvres du groupe, du coup les personnes qui ont moins de 600 euros, ont automatiquement une enveloppe en début de mois. Et pour le reste, il y a aussi une partie de l'argent qui est dans une caisse dans laquelle chacun, chacune qui fait partie de la mutuelle peut taper à n'importe quel moment du mois, peut se servir et pour ses besoins, mais que ce soit de besoin de partir en vacances, de payer un dentiste ou de, réparer un dégât des eaux chez soi ou n'importe quoi. Mais en fait, il n'y a pas de jugement sur le fait de prendre cet argent-là. Et la mutuelle aussi, ça permet beaucoup, beaucoup de partager en fait sur notre rapport à l'argent entre les personnes qui en ont, les personnes qui en ont pas, les personnes suivant aussi d'où on vient dans nos familles et sur quoi on peut compter de la part de nos familles ou des potes proches ou de sécurité qu'on a ou et surtout qu'on n'a pas, et à quel moment on est obligé de soutenir aussi nos familles. Et voilà, et en fait tous ces rapports-là peuvent se débriefer en temps réel. La mutuelle, c'est des partages d'argent, c'est aussi simplement des solidarités du quotidien et de la vie quotidienne sur des déménagements, des départs en manif, des bons plans récup à droite, à gauche, et voilà, plein de trucs.
Et du coup, là, tu parles du coup d'une vingtaine de personnes. Est-ce que ça veut dire que des fois, il y a des soutiens à des personnes autres que la mutuelle, par exemple des collectifs, des caisses de grève, des choses comme ça?
Ben plutôt pas en général, parce que la mutuelle, elle se veut justement ce truc de partage de l'argent entre personnes de confiance, de partage entre nous, de comment est-ce qu'on peut aussi nous discuter et déconstruire, reconstruire d'autres rapports à l'argent. Alors, c'est pas tant tourné, c'est pas comme une caisse de solidarité qui va être tournée vers l'extérieur et vers soutenir des gens ou des collectifs ou des causes, mais plutôt de mettre en place une solidarité concrète entre nous. Après, ça n'empêche pas quand même que pendant nos réunions, il y a des caisses qui peuvent tourner pour soutenir telle ou telle cause, quoi.
Mais alors, par exemple, moi, je trouve que ça a l'air hyper bien, mais comment je peux faire pour vous rejoindre, du coup ?
La mutuelle, comme je disais un peu, ça fonctionne sur une base affinitaire, sur une base de cooptation, parce que on fait ça parce qu'on s'aime bien et parce qu'on se voit souvent. Et en plus, notre démarche, c'est pas tant aussi de faire grossir la structure, mais plutôt d'encourager d'autres gens à créer d'autres mutuelles similaires, comme il y en a une dans le Pila, Saint-Étienne, une à Rennes. Il y en a d'autres qui veulent se monter à droite à gauche et par contre on est tout à fait prêt à partager nos expériences et puis les trucs qu'on a fait pour voir si ça va à d'autres collectifs.
Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a une soirée ce soir organisée par la Mutte.
Ouais, il y a une soirée publique. De temps en temps, on essaie de faire des présentations publiques. Puis là, on avait plutôt envie de faire la fête ensemble et avec les gens qui voudront venir. Il y a une petite présentation de la mutuelle qui est prévue. Et puis, il y a une bouffe et il y a une chorale féministe. Et puis, il y a une boum à la fin. Et ça se passe à l'atelier des Canulars, au 91 rue Montesquieu, à partir de maintenant, en fait, à partir de 19h. Voilà. Et la soirée, en fait, elle est publique et c'est pas une soirée en soutien à nous, évidemment. C'est plutôt une soirée où s'il y a de l'argent, on espère qu'il y en aura, de l'argent qui sera récolté, parce que quand même, quand on fait des soirées publiques, il y a ça. Ben on le filera à trois collectifs féministes, dont la Caisse Transinter à Lyon, qui soutient des personnes trans pour leurs opérations. Et tout ça, puis aussi pour la caisse de grève des femmes de ménage de Marseille et puis un dernier collectif au sud de la Méditerranée.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Non, mais venez nombreuses et nombreux parce que c'est cool de faire la fête.
Et par contre, il y a une brochure qui présente la mutuelle. On peut la trouver quelque part, cette brochure ?
On peut la trouver ce soir. En exclusivité en version papier au 91 rue Montesquieu, et sinon on peut la trouver sur internet sur infokiosque.net. il y a les PDF de la brochure effectivement qui explique très bien le fonctionnement du bazar.
Incroyable. Et merci beaucoup et à tout à l'heure à l'atelier. Alors
merci.
La visite est disponible, libre et irréductible.
Canu Info.
La visite est disponible, libre.
Actu féministe.
Les hommes fiers et féministes et solidaires et en colère.
Canu Info du vendredi.
Oui, le 22 janvier, Marguerite Stern, la fondatrice du mouvement Collage Féminicide, a publié une série de tweets transphobes qui ont été relayés sur différents médias du genre Le Monde ou Charlie Hebdo ou même encore Valeurs Actuelles et qui tournent pas mal sur les réseaux sociaux. Dedans, il est question de propos inacceptables à l'encontre des militantes et militants pour les droits des personnes transgenres, les accusant d'être, je cite, une nouvelle tentative masculine pour empêcher les femmes de s'exprimer. C'est dans ce contexte que des personnes concernées ont publié une tribune sur Mediapart pour diffuser un tout autre message. Une femme transgenre est une femme. En le niant, Marguerite Stern oublie que les femmes transgenres ont participé à coller contre les féminicides pour la simple raison qu'elles sont personnellement concernées par les violences sexistes. Pourquoi ? Parce que les femmes transgenres subissent, elles aussi, le patriarcat dans toutes les violences qu'il contient, en plus de la transphobie qui les discrimine sur tous les plans. Accès au travail, au logement, aux soins, peuvent se voir refuser la garde de leurs enfants et sont exposées aux agressions physiques ou sexuelles, aux violences conjugales, aux viols, aux situations de danger, au harcèlement et au féminicide. Rappelons que la transphobie tue, et ce n'est pas l'identité de genre qui rend une personne malheureuse, c'est le sexisme et la transphobie environnante, c'est la haine et les préjugés. Elle écrit aussi que, je cite, « Les hommes qui veulent être des femmes se mettent soudainement à se maquiller et à porter des robes et des talons. » Portez des robes, des talons et des perruques, maquillez-vous si vous voulez, je n'irai pas crier à l'appropriation culturelle, mais ne venez pas dire que vous êtes des femmes. Cette généralisation est intolérable, il ne s'agit pas d'hommes qui se déguisent en femmes ni de clowns, et toutes les femmes transgenres ne portent pas des robes ni de talons. Cette description est caricaturale et sexiste. D'ailleurs, on ne reprocherait pas aux militantes cis, c'est-à-dire qu'elles sont nées assignées femmes, de renforcer les stéréotypes quand elles s'épilent, se maquillent ou mettent des talons hauts. Ce sont seulement les femmes transgenres qui doivent être irréprochables et montrer patte blanche. C'est la définition même de la transphobie. Ensuite, concernant son approche ultra-biologisante de l'appartenance à la catégorie femme, il faut rappeler que la science biologique n'existe pas en dehors de la société. Les chercheuses et chercheurs sont soumis aux mêmes croyances collectives que les autres agents sociaux. La référence biologique est l'étendard des conservateurs qui veulent calquer l'ordre social sur l'ordre biologique, car le corps est un marqueur sexuel, racial, social, et qu'au travers de son contrôle, on maintient l'ordre social, le patriarcat, et on légitimise les rapports d'exploitation, les violences, ou encore la pathologisation des minorités. Depuis ses publications défendant l'idée d'exclure les femmes transgenres, les qualifiant d'agresseurs infiltrés, la parole transphobe s'est laissée pousser des ailes. Mais les murs de la ville sont à toutes celles et ceux qui sont obligés de les raser de peur de rencontrer les violences masculines, du fait de son genre réel ou supposé, de son identité de genre ou d'une ambiguïté de genre. Il ne faudrait pas accueillir uniquement les sœurs dont les sorts nous ressemblent totalement, c'est aussi ça l'effort de sororité.
Ce que je veux,
Canu c'est Info.
Que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
Les mouvements sociaux.
Mais notre règne arrivera quand votre règne finira.
Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte.
Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes.
Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott.
Et le Canu Info du vendredi continue avec un petit retour sur la réforme des retraites. Il paraît même qu'on ferme les écoles.
Oui, alors ça c'est en Guadeloupe où une très grande partie des écoles sont fermées depuis une quinzaine de jours. Le mouvement contre la réforme des retraites, combiné à des revendications contre la baisse des effectifs enseignants, bloque une grande partie des écoles, des collèges et des lycées. Portes cadenassées, cols dans les serrures. Nombreux sont les parents qui trouvent porte close à leur arrivée le matin devant l'école depuis début décembre. En Guadeloupe, le mouvement social contre la réforme des retraites, combiné à des revendications contre la baisse des effectifs enseignants, bloque une très grande partie des écoles, collèges et lycées. On est en grève depuis le 5 décembre, mais depuis janvier, le mouvement s'est durci, a expliqué mardi 4 février, lors d'une conférence de presse, le syndicaliste du syndicat FSU, Fédération syndicale unitaire. Depuis une quinzaine de jours, de nombreuses revendications locales sont venues renforcer la mobilisation des enseignants. Nous nous mobilisons contre la réforme des retraites, bien sûr, mais aussi contre la prévision de la suppression de 72 postes, indiquent les professeurs et institutrices du collège Maurice Satino et de l'école primaire. Conséquence, une grande partie des enfants ne vont plus à l'école depuis plusieurs semaines. La FSU critique la politique locale de l'éducation. Monsieur le recteur, vous détruisez méticuleusement le service public d'éducation dans une académie qui jette hors du système scolaire des milliers d'élèves tous les ans sans diplôme, fustige dans un courrier adressé au rectorat, le syndicaliste pointe un indice de positionnement social de la Guadeloupe qui, si l'on était en France hexagonale, conduirait à créer 270 postes de titulaires. Le rectorat fait valoir pour justifier les suppressions de postes une baisse démographique. Pour le député de Guadeloupe, c'est surtout depuis le 21 janvier et l'entrée en grève des syndicats CPEG et UNCA, l'Union nationale des syndicats autonomes, que les blocages se sont intensifiés. Tout l'enjeu est de tenter de démontrer les spécificités de la Guadeloupe, souligne le marcheur qui compte porter une partie des arguments des syndicats auprès du gouvernement. Il cite notamment un taux d'illettrisme deux fois plus fort sur l'île.
Et alors, attention, dans le Canu Info du vendredi, on parle certes des écoles, mais encore mieux que les écoles, il y a des crèches et des garderies autogérées. Et alors là, je pense que c'est la première fois de ma vie que je fais une chronique avec un journal papier. Alors figurez-vous, il va y avoir des petits brouillis de journaux comme ça, hyper sympa, et aussi que j'ai vachement bien préparé. Et ce journal, c'est CQFD, c'est le numéro 184, février 2020, suite de ce mois-ci. Si vous comprenez rien, vous aurez qu'à relire le journal. Ça se trouve dans toutes les bonnes librairies, surtout autour de Marseille, je crois. Et alors, ça parle du coup de garderies qui ont été mises en place par des militants et des militantes pour permettre aux personnes d'aller, aux militants et militantes qui ont des enfants d'aller en manif, et surtout aux militantes, parce que eh ben, généralement, c'est plutôt les femmes qui ont la garde des enfants, ou en tout cas la charge de garder les enfants. Ça s'est passé où ? Ça s'est passé là, d'abord à Nantes, donc dans la proche banlieue nantaise, au deuxième étage du local des CMEA, qui est une fédération d'éducation populaire. Ce qu'on appelle les garderies populaires ouvrent leurs portes les jours de mobilisation. Dans quelle idée ? Dans l'idée de permettre aux manifestants et manifestantes de se délester de leurs marmots avant de rejoindre le cortège. Alors comment ça s'est créé ? Bah, du coup, c'est un certain nombre de militants et militantes qui sont allés les premières semaines de mouvement sur les piquets de grève et qui sont allés demander aux personnes des piquets de grève c'était un peu quoi un peu leurs besoins. Et alors même qu'elles avaient envie de créer une garderie, du coup elles se sont rendues compte que c'était une bonne idée, que ça faisait bien partie des préoccupations des grévistes. Du coup, suite à une assemblée générale interprofessionnelle, la garderie est inaugurée et ça a été facilité notamment par le fait que ça avait déjà existé en décembre 2018. Et donc, où chaque samedi pendant plusieurs semaines, en plein mouvement des Gilets jaunes, eh bien c'est à la dérive dans un bar du centre-ville de Nantes qu'il y avait eu, du coup c'est un petit peu cette histoire de garderie autogérée par les militants et militantes. Et du coup, c'est différentes personnes qui se regroupent pour garder les enfants, du coup, bah, que ce soit à la fois des volontaires, des animateurs ou des animatrices de formation, mais aussi des syndicalistes. Et donc, du coup, il y a pas moins de 10 volontaires qui se relaient depuis plus de 2 mois pour assurer les tours de garde, les jours de manifestation. Et du coup, comment ça se passe ? Eh ben, quand on est parent, on amène son enfant, on l'inscrit, on le dépose gratuitement avec juste un repas de midi, un carnet de santé. Il n'y a pas de paperasse, pas de machin, pas de truc, juste une petite fiche sur laquelle doivent apparaître les allergies et 2 numéros de téléphone, dont l'un d'une personne qui ne participe pas à la manifestation. Pourquoi qui ne participe pas à la manifestation ? Eh bien parce que les personnes se sont dit que ça pouvait être important qu'il puisse y avoir une personne en dehors au cas où un des parents se faisait interpeller. Et alors pourquoi ça se passe ça ? Eh bien c'est parce que certes les gens ne veulent pas forcément emmener leurs enfants en manifestation, mais aussi parce que les manifestations sont de plus en plus violentes, et si y a pas mal de gens qui avant emmenaient leurs gamins en manifestation et qui là se rendent compte que face à la violence policière, et ben c'est plus du tout possible de le faire. Et du coup, à force d'avoir peur, et ben du coup les gens n'allaient plus en manif avec leurs gamins. Et du coup, bah grâce à cette garderie, et ben ça est de nouveau possible. Mais alors figurez-vous, ça n'existe pas que à Nantes, ça existe aussi à Lyon. Et oui, parce qu'il y avait une association en 2019 qui s'appelait les Nounous Jaunes. Et du coup, c'est deux personnes qui avaient créé une garderie chaque samedi pendant 4 mois dans les locaux de l'Alternative Bar. Hop. Et alors, vous pensez que c'est terminé ? C'est pas terminé, parce que je suis en train de tourner le journal, c'est quand même pas rien. Et alors, on se dit, ok, c'est super, ça permet de faire garder ses enfants pendant les manifs. Mais pour les personnes qui mettent en place cette garderie à Nantes, en tout cas, c'est pas que ça. Le but, c'est pas de dire que c'est, hop, quand on peut pas aller à la manif, et bah, hop, on va aller garder les gamins ou quoi. C'est pas le banc de touche de la lutte. L'idée, c'était de pas reproduire, en fait, ce qui se passe dans d'autres structures de garderies en général et tout, c'était d'avoir quand même du coup des garderies autogérées qui permettent aux gamins de découvrir une autre manière de fonctionner, et aussi que ce soit pas que des meufs qui s'occupent des permanences, mais qu'il y ait aussi des mecs qui s'y investissent et qu'on se rende compte de justement les inégalités en termes de temps de garde. Et par ailleurs, c'est aussi la volonté de créer des vrais espaces de contre-pouvoir, en fait, de montrer que les émeutes c'est bien, mais que si on veut transformer la société, et ben il faut aussi influer sur le quotidien en proposant d'autres manières de s'organiser. Et alors, il y a 2018, il y a 2019, il y a 2020, des garderies autogérées. Mais en 1968, il existait déjà des graisses sauvages. Alors je vous dis en 1968, ça devait peut-être... Enfin bon, voilà, là c'est, ça peut-être ça existait avant aussi finalement, on sait rien. Mais là, du coup, il y avait à Nantes et à Lyon des crèches autogérées en 68, et la première a eu lieu à la Sorbonne. Et alors l'objectif initial était juste du coup ben, de garder les enfants pendant, pendant les grandes manifs et, les grands, et le mouvement de 68. Mais ensuite c'est, ça a vite dépassé parce que ça a continué à la fin de la, du mouvement et c'est devenu un peu un espace d'expérimentation, une sorte de laboratoire du coup de ce qui est devenu finalement les crèches parentales. Alors on espère que bientôt il y aura des crèches parentales à Lyon. En attendant, c'est vrai que les manifestations à Lyon sont hyper violentes, voire de plus en plus, mais pour ça on va du coup vous lire un petit texte.
Canu Info du vendredi.
Ça donne envie. Ça donne envie de se faire pousser du caillou autour, de s'enfermer dans du rocher pour se sentir plus fort, forte et pour avoir plus chaud.
Ça donne envie de devenir un fossile plein de petites pointes de calcaire.
Ça donne envie d'être un galet dur, rond et lisse qui roule sur les autres galets jusqu'à la mer.
Ça donne envie d'être belle et beau et de lever les bras et d'avoir dans chaque main un morceau de pavé bien taillé à la bonne taille d'un point idéal, assez léger pour être lancé, assez lourd pour faire mal.
Ça donne envie d'enlever tout le goudron des rues, de devenir une statue, une momie toute grise, endormie, bouche ouverte, passer des millénaires en boule dans une main fermée et chaude.
Ça donne envie de se faire jeter contre les murs, les boucliers, les vitrines et les casques, de se briser en mille morceaux au milieu des milliers d'autres cailloux. Être un sol jonché de débris et de restes de choses de monde usé.
Ça donne envie de crever et de vivre pour toujours dans le cri et le silence, ne plus rien dire, être un gravier muet du sable minuscule, se fondre dans la masse, être fondu à 6000 degrés, être la vitrine qu'on viendrait de casser.
Ça donne envie d'être la terre entière, une boule immense qui contiendrait tout, qui comprendrait tout.
Ça donne envie d'être le marbre des statues et de se fendre jusqu'à la mer, ouvrir le monde en deux et son ventre plein de lave, être un volcan, cracher sur tout et laisser sortir l'horreur brûlante d'être vivant vivante.
Ça donne envie de vomir tous les cailloux de sang qu'on se crée en gardant les choses dans la bouche, en vivant dans ce monde où les mots ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde.
Ça donne envie de se tailler, de se sculpter, se polir, être un miroir où se voir et regarder les autres.
Ça donne envie de se taire et de se fixer dans les yeux, de hurler, descendre dans les grottes les plus humides et les plus sombres, s'excuser, se pardonner et remonter à la surface, se sentir forte face au dehors, face aux méchants, ne plus se sentir une plus faible pour lui taper dessus et se sentir moins merde.
Ça donne envie de se voir grain de sable parmi les grains de sable, se glisser entre les riches orteils et gâcher leurs vacances. Être une pierre qui dégringole de la montagne, être un éboulement plein d'amour, de justice, sortir du lot, de la paroi sur la route de Chamonix. Traverser le pare-brise d'une Audi A4, être un morceau d'arc de triomphe et s'écraser des ministres pendant une cérémonie. Tout un bâtiment qui s'effondre, le toit, les fondations et le béton armé, un accident plein de joie. Être le palais de l'Elysée, se laisser tomber de fatigue, de lourdeur, de détente. Lâcher ses dizaines de tonnes de vie trop longue et s'effondrer.
Ça donne envie de tout lâcher, de dire au revoir et merci. Tous les petits cailloux au garde à vous comme une armée de poussière partagée entre se battre et tout laisser tomber. Les pierres volent depuis la nuit des temps, ouvrent des crânes, ouvrent des portes, ouvrent des vies.
Ça donne envie de se jeter encore une fois pour voir, même si ça sert à rien. On se jettera toujours quelque part, on finira toujours au milieu des cailloux.
We'll be right back.
papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestin.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border.
Alors, on va parler des prisonniers du centre de rétention administrative de Wassel qui reprennent la grève de la faim. Une semaine après la dernière grève de la faim, les personnes enfermées dans la prison pour sans-papiers de Wassel ont décidé de recommencer une grève de la faim. Plusieurs communiqués ont continué à sortir, dénonçant les conditions de rétention pourries, les violences policières et la connivence de France Terre d'Asile, qui est l'association qui est censée les aider juridiquement, mais qui finalement collabore avec la police et la préfecture. Malgré les intimidations et les attaques, leur lutte ne s'est pas arrêtée. Force et courage à eux. Voilà, donc la lutte ne s'arrête pas. Ils dénoncent le rôle de France Terre d'Asile en disant qu'elle invisibilise leur lutte et les soutient pas du tout dans le fait d'avoir des droits. Ils écrivent « Bonjour, de nos revendications, il n'y a eu aucun changement, car les repas qui nous ont servis sont toujours froids. D'autre part, les personnes retenues se plaignent du silence de l'association France Terre d'Asile qui est présente dans les locaux du CRA d'Oissel. Cette association ne fait rien pour nous aider dans nos démarches, bien au contraire, elle est complice avec la police et surtout avec la préfecture. »
Canu Info du vendredi.
Vous avez un emploi, monsieur Lebowski?
Permettez-moi de remettre les pendules à l'heure.
Commandant, c'est toujours là.
On n'est pas là pour philosopher et carpentier.
Quand même, incroyable.
Alors maintenant, on va parler des demandeurs et demandeuses d'asile qui sont vus remettre en question leur couverture santé. Ça a été décidé le 30 décembre 2019. Il y a eu un décret du ministère des Solidarités et de la Santé qui a instauré un délai de carence de 3 mois avant d'obtenir une couverture santé pour les personnes demandant l'asile. Donc c'est entré en vigueur le 1er janvier là. Ça a des conséquences très très graves sur la prise en charge médicale des personnes qui demandent l'asile, qui souvent arrivent après des parcours très très compliqués, donc qui ont souvent des gros problèmes de santé. Concrètement, cela signifie que pendant 3 mois, les demandeurs et demandeuses d'asile n'ont accès à aucun soin, à part urgents et vitaux, s'ils vont directement à l'hôpital. Et ils n'auront plus accès aux soins qui permettent d'éviter de la propagation de maladies infectieuses comme la tuberculose, ou même les femmes enceintes, elles n'auront pas de soins non plus. Cette décision abroge un décret porté 20 ans plus tôt par le gouvernement Jospin qui permettait justement aux demandeurs et demandeuses d'asile d'être exemptés de ce délai de 3 mois. Donc cette mesure avait été déjà annoncée début novembre par la ministre de la Santé, où elle insistait alors dans un communiqué sur la nécessité de lutter contre la fraude et les abus des dispositifs d'accès aux soins pour les étrangers, et avec tout un tas d'horreurs aussi, où elle veut limiter complètement l'accès à l'aide médicale d'État et rendre toutes les démarches beaucoup plus difficiles, et c'est ce qu'ils là ils ont commencé à faire. Enfin, qui continue à faire, mais vraiment de plus en plus. Donc on comprend bien que là, l'idée, c'est de faire des économies, mais aussi ça part de l'idée que les gens viendraient ici pour frauder le système, que ce n'est pas des vrais migrants qui viennent demander l'asile, mais ils viennent juste là pour accéder au système de soins français. Et comme ça, l'exécutif pénalise tous les demandeurs et demandeuses d'asile, qui sont des personnes déjà hyper précarisées, qui souvent devraient avoir un hébergement et ne l'ont même pas. Et ils font comme si elles abusaient des droits, alors qu'en fait, dans tous les cas, c'est des personnes qui sont ici, elles attendent pendant leur demande d'asile. Et le fait de ne pas avoir de soins, ça empire complètement leur situation. Et elles vont arriver dans les hôpitaux dans des états catastrophiques, quoi. D'après le rapport sur lequel se base la décision de la ministre, le coût des dépenses de santé des demandeurs d'asile représente 0,1% du budget de la branche maladie de la Sécu. même si abus il y avait, ce serait loin de mettre en danger le système de santé français. Surtout qu'il y a déjà plein de gens qui ne font pas appel à ces droits-là. Les politiques de restriction du budget dans le domaine de la santé sont bien plus responsables de la colère des professionnels de santé et de la destruction de ce service public de l'immigration. Donc du coup, pour faire des économies à la Sécu, les personnes sont orientées vers les permanences d'accès aux soins et à la santé, ou les associations comme Médecins du Monde qui accueillent les personnes qui n'ont pas de couverture santé, mais qui peuvent faire des choses très limitées parce qu'elles n'ont pas beaucoup de moyens. Et du coup, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont aller vers ces associations qui sont déjà complètement sursaturées. Donc ces associations ont déjà alerté la ministre en décembre sur les conséquences de cette mesure, sachant qu'elles n'ont pas eu plus de budget pour le moment et qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'y rendent chaque jour. Et cette mesure a aussi un autre effet pervers, celle de compliquer encore davantage le dépôt d'une demande au titre étranger malade. Puisque depuis mars dernier, les personnes qui demandent l'asile ont aussi 3 mois pour faire la demande concomitante étranger malade, un titre de séjour pour raison médicale. Donc, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas le traitement dans leur pays qui permettrait de les soigner. Mais cette demande, elles ont 1 mois pour remplir un certificat médical. Et sinon, après, elles n'ont plus le droit de faire cette demande. Mais du coup, si elles n'ont pas le droit à la couverture santé pendant ce laps de temps, elles n'auront pas la possibilité de faire cette demande à la préfecture. Et pareil, en fait, c'est comment annuler tous les droits possibles pour les migrants. Et en plus de ça, c'est pas que pour les demandeurs d'asile que ça se corse maintenant, puisque là, ils ont décidé aussi que l'aide médicale d'État, maintenant, au lieu d'envoyer un courrier, il faudrait se rendre physiquement à la Sécurité sociale pour faire la demande. Et ils ont décidé aussi que la couverture santé qui était donnée... pendant 1 an, une fois qu'elle était acceptée, là, pour les demandeurs d'asile, passera à 6 mois. Enfin bref, du coup, ça n'arrête pas de faire que des droits qui deviennent de plus en plus petits pour toutes les personnes migrantes et ça rend les choses très compliquées.
Canu Info du vendredi.
Vous avez un emploi, monsieur Lebowski?
Permettez-moi de remettre les pendules à l'heure.
Commandant, c'est toujours là. On n'est pas là pour philosopher et carpentier.
Quand même, incroyable.
Ah, maintenant je vais parler du Conseil d'État qui valide le fichage des mineurs non accompagnés. Donc c'est les mineurs migrants. Enfin, qui sont arrivés en France, voilà. Donc, le Conseil d'État, dans une décision du 5 février, rejette le recours porté par des associations contre le décret du 30 janvier 2019 sur le fichier d'appui à l'évaluation de la minorité. Le Conseil d'État refuse de reconnaître les atteintes portées aux droits des mineurs non accompagnés et fait aussi primer la lutte contre l'immigration irrégulière sur les droits de l'enfant. Il y a un risque accru d'expulsion illégale des mineurs, du coup, parce qu'ils ne prennent pas en compte la présomption de minorité et le droit au recours. Donc, ils laissent toute latitude aux préfectures pour expulser des personnes qui devraient être présumées mineures tant que le juge des enfants ne s'est pas prononcé sur leur situation. Ils considèrent que la protection des enfants étrangers contre les mesures d'éloignement prévues par la loi ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allégrait être mineure. Bon, grosso modo, le Conseil d'État entérine la possibilité pour l'administration d'expulser un jeune ou une jeune qui demande protection en raison de sa minorité et de son isolement dès lors qu'un département l'a considéré comme majeur, le plus souvent à l'issue d'une procédure d'évaluation sommaire fondée sur des critères subjectifs. Des fois, dans certains départements, pour évaluer si les gens sont mineurs, c'est des travailleurs sociaux qui posent des questions aux gens qui sont arrivés en essayant de détecter si oui ou non ils sont mineurs. Enfin, ils utilisent aussi les empreintes, mais c'est pas fiable non plus. Et donc, et peu importe, au Conseil d'État que le ou la jeune n'ait pas pu exercer de recours devant le juge des enfants. On sait pourtant que, dans certains départements, la moitié des mineurs qui saisissent ce juge se voient finalement, se voient finalement leur minorité reconnue. Donc là, les organisations qui essayent de protéger les mineurs s'inquiètent vraiment de plus en plus de l'application de ce décret. Puisqu'il y a de plus en plus, ils voient de plus en plus de mineurs ou de personnes, en tout cas présumées mineures, qui pendant toute la procédure en préfecture sont à la rue, se sentent pas protégées. Et le Conseil d'État prend, dit qu'il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil provisoire d'urgence pour toute personne se déclarant mineure isolée, mais dans les faits, c'est pas du tout le cas. Et les jeunes leur état de santé se dégrade et ils se méfient de plus en plus des dispositifs d'aide aussi. Et voilà, ça précarise encore plus les mineurs isolés qui arrivent après des gros parcours très compliqués.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Alors, dans l'agenda...
C'est quoi dans l'agenda ?
À partir de demain... 17h à la Griffe, il y aura une conférence qui s'appelle « Tu seras un homme, ma fille ». C'est une conférence de Chloé Richard. La Griffe, c'est donc la librairie qui se trouve rue Sébastien Griffe, hein, finalement. Et donc, de quoi ça parle ? Ça parle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Une loi grammaticale qui ancre le sexisme dans l'usage de la langue française depuis le XVIIe siècle. Pourquoi cette règle et comment s'en départir, du moins à l'écrit ? Faut-il s'inspirer des Britanniques pour démasculiniser la langue ? Entre assignation et émancipation, interrogeons l'histoire et inventons le futur avec nos mots en éclaireur. Les mots sont des outils de résistance, le langage, un terrain de lutte. Et voilà, ce sera à la Griffe à 17h.
Et donc le samedi 8 février, l'Union communiste libertaire organise à la Plume Noire une deuxième projection en soutien aux grévistes qui s'appellera Grand Puits et Petite Victoire. Et le prix libre de la projection sera reversé aux grévistes de Lyon 2. Ça parlera de la lutte des raffineurs de Total contre la réforme des retraites en 2010. Le gouvernement veut faire passer en force sa réforme des retraites, mesure d'austérité phare du quinquennat Sarkozy. La rue se réveille, les grévistes de la raffinerie Total de Grand Puits vont devenir, malgré eux, le fer de lance d'une lutte qui a mobilisé des millions de Français. Tout en nous faisant vivre une grève de l'intérieur, aux côtés des jeunes grévistes attachants, le film renoue avec l'histoire populaire française, décrypte la stratégie gouvernementale, patronale et le rôle prépondérant des médias. Traversé par le questionnement des ouvriers sur la lutte collective, le récit nous embarque dans une véritable aventure humaine. Donc rendez-vous le samedi 8 février à 17h à la Plume Noire, au 8 rue Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse.
Et il se passe rien cette semaine jusqu'au 14 février. Alors c'est vrai que c'est pas vrai non plus, parce que là moi, je vais vous dire un truc qui se passe à 18h30 le 14 février. Alors je sais pas si c'est déjà dans les bails de l'internet mondial, mais quand même je crois bien que 14 février, vendredi, il y aura à 9h du matin un rassemblement devant le tribunal de grande instance de Lyon pour l'espace communal de la Guillotière. Et du coup l'espace communal de la Guillotière, c'est quoi ? C'est ce nouveau lieu qui a ouvert rue Béchevelin à la Guillotière et qui du coup essaie de proposer plein d'activités ouvertes sur le quartier. Et du coup il y aura un procès pour ce lieu vendredi à 9h, mais je dis 9h, mais j'en sais rien, 9h, 9h30, et puis voilà, c'est au TGI, mais je suis sûr que c'est vendredi en tout cas. Mais je crois bien qu'on en parlera dans le Canu Info du lundi, du coup il suffira d'écouter le Canu Info du lundi pour tout savoir, ou alors d'écouter le Canu Info du lundi rediffusé le matin de 7h à 8h.
Oh, bien joué.
Mais moi, je voulais quand même vous dire ce qui va se passer vendredi 14 février, le soir. Eh ben, à 18h30, plutôt que d'écouter le Canu Info du vendredi, même si c'est un peu triste, vous pourrez aller à la Lutine. La Lutine, c'est juste à côté de l'atelier des Canulars, c'est 91 rue Montesquieu, parce qu'il y a une AG de la Brigade des Fauchés. C'est quoi cette histoire de Brigade des Fauchés? C'est face à la baisse des APL, la réforme du chômage, la réforme de la retraite, la guerre au précaire est déclaré. Rentrons toutes et tous en action et du coup en réalisant une AG pour essayer d'organiser la lutte contre toutes ces réformes qui vont nous contribuer à nous précariser encore plus tous et toutes.
Et dans l'agenda toujours, lundi 10 février, rendez-vous à la Bourse du Travail en salle A pour lutter pour le droit à un toit pour tous et toutes. Donc c'est le collectif Hébergement en danger qui continue la lutte pour plus d'hébergements. On se rappelle qu'en décembre, il y avait eu des grèves incroyables qui ont permis de faire reculer la préfecture qui voulait supprimer des places d'hébergement d'urgence. Mais gardons la lutte, puisque le préfet veut encore supprimer 2000 places d'hébergement d'urgence. Hein. Et il y a quand même 7000 personnes qui sont encore en attente d'un hébergement à Lyon et plus de 2500 qui appellent quotidiennement le 115. Donc là, le but, c'est de réfléchir à que faire. Là, il va y avoir la fin du plan froid le 28 mars et voilà d'autres échéances. Peut-être de nouvelles manifestations et grèves à venir.
Mathieu, eh bien, on va dire que aujourd'hui ou cette semaine, on ne sait plus trop. En tout cas, la CAB, ça veut dire autogestion des crèches et arrachons les barrières. Voilà.
Le Canu Info du vendredi, c'est terminé. Vous pourrez réécouter le Canu Info du vendredi tout le week-end de 7h à 8h en rediffusion automatique. Et ouais, le Canu Info du vendredi ce soir termine avec quasiment 2 minutes d'avance. Mais du coup, j'essaie de meubler quand même pour qu'on s'en rende compte.
Ah non, 2 minutes maintenant.
Et du coup, peut-être on peut dire, on l'a pas dit dans l'agenda quand même, peut-être la prochaine journée intergrève, interprofessionnelle, intergrève générale, c'est le 20 février. Donc c'est pas ce jeudi, c'est celui d'après.
Et on peut dire aussi qu'il y a une manifestation contre les frontières et les états impérialistes le samedi 8 février, mais c'est demain, mais c'est à Grenoble par contre.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre?
On n'a pas envie de filer de pollution.
Ah mais normalement on pourrait faire une blague anti-flic. Qui c'est qui a une blague anti-flic?
Je crois que...
Sur le vif.
Allez, je vous fais ma préférée. Pourquoi les flics aiment pas les sandwichs au caca?
Ah ok.
Pourquoi?
Ils aiment pas le pain.
Ah, bah, bon, allez, je crois qu'on va être obligé de donner l'antenne à Noise Pollution. J'en ai pas d'autres. Du coup, bah, tout de suite, c'est Noise Pollution et c'est une émission de quoi?
De reggae.